Eh bien, j'aimerais lire avec vous tout d'abord un texte, parce que notre point de référence absolu, c'est Jésus-Christ. Et le texte que j'aimerais partager dans un premier temps se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 et au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. C'est un texte extrêmement intéressant à différents points de vue. Je vais m'arrêter peut-être sur un ou deux aspects bien spécifique de ce passage de l'écriture, de ce récit. Nous avons ici les trois qualités de la vraie foi. C'est celle que Jésus a admirée. C'est intéressant quand même, que Jésus admire la foi de quelqu'un. Et ça a été le cas de ce centenier. Il est quand même d'une nation occupante et païenne. Mais lui s'était attaché de toute évidence au vrai Dieu, au Dieu unique, au Dieu d'Israël. Et nous avons relevé au cours des différentes soirées combien c'était important d'avoir la vraie foi, la foi qui sauve, qui pousse en avant, qui nous donne de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu s'accomplir dans notre vie et là où nous sommes, la vraie foi. Et je me suis dit que ce pouvait être particulièrement intéressant pour nous de nous arrêter un peu à cette notion de vraie foi et à ses caractères. Et puis je terminerai avec encore un court volet prophétique, puisque c'est ce que nous avons abordé principalement pendant les rencontres précédentes. Alors, il est dit au verset 2 que c'était un homme très attaché à un de ses serviteurs. C'est intéressant. Vous savez que la condition des serviteurs, voire des esclaves, à cette époque, n'était pas enviable. Et ce centenier, lui, était très attaché. Il aimait ce serviteur. Et puis, une autre caractéristique au verset 5, non seulement il était attaché à ce serviteur, mais encore il est relevé, il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. Et ce que je déduis, et en fait constate, parce que c'est évident dans le texte, c'est que l'amour de cet officier romain était un amour qui se traduisait par des actes. Par des actes. Et je crois que l'amour vrai se traduit par des actes. Et en particulier aussi pour ceux qui sont proches de nous. On a remarqué que c'est très facile d'aimer des gens qui sont à 10 000 kilomètres. C'est des fois plus difficile d'aimer des gens qui sont dans notre propre maison, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, c'était un amour qui se traduisait par un engagement, par des actes. Alors, verset 9, Jésus admira le centenier. Je pose une question, la réponse est, je crois, évidente. Il n'a pas admiré ses galons. Jésus regardait au cœur. Un centenier, c'était un capitaine. Et c'était sa première grande qualité, la grande qualité de son amour, celui que Jésus a admiré. L'Empire romain n'était pas inspiré par l'amour. En Daniel 7, verset 7, on voit ce que Dieu en pensait. Un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort, qui avait de grandes dents de fer, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Ce n'est pas l'image de la douceur, de la grâce et de l'amour, n'est-ce pas ? C'est le moins qu'on en puisse dire. Mais ce centenier faisait exception. Matthieu 15, versets 21 à 28, nous montre une femme cananéenne qui aimait sa fille, possédée d'un démon, nous dit le texte. Et Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et elle a été exaucée. Quelqu'un a dit, et je trouve que c'est une expression très intéressante, la foi est plus grande quand l'amour est grand. La foi est plus grande quand l'amour est grand. Et cela est évidemment la réalité. Alors, cet officier romain a aimé celui qui le servait. Il a aimé celui qu'il occupait, comme son serviteur, son employé. Et il a aimé les Juifs, une nation qui n'était pas toujours considérée comme très aimable, d'ailleurs à cette époque comme à d'autres époques de l'histoire, mais lui n'était pas ainsi. Et il a aimé les Juifs comme s'ils avaient été les siens. Extrêmement intéressant. Ce n'était pas un raciste, ce n'était pas quelqu'un qui aimait ceci et qui détestait ceux-là parce qu'ils étaient ceci ou cela, mais il était capable d'aimer là où la plupart certainement l'aimaient guère. Quelqu'un a dit dans cet esprit, et j'ai souvent pensé quand j'ai prié pour des malades, ou des personnes qui avaient besoin de libération, de délivrance, si tu pries pour une femme, prie comme si c'était ta mère. Si tu pries pour un homme, comme si c'était ton père. Un enfant, comme si c'était ton enfant. Je crois que c'est profondément vrai. Je me souviens d'une expérience faite lorsque j'étais au Congo, enfin c'était le Zaïre à ce moment-là encore, c'était du temps de Mobutu, et nous avions des grandes campagnes avec les Assemblées de Dieu à Kinshasa. Près de Njili, l'aéroport, on pouvait avoir jusqu'à 100 000 personnes en réunion. Il y avait plus de 60 paroisses et sous-paroisses, les Assemblées de Dieu représentées. C'était très encourageant. Et puis, à la fin, il y avait toujours une prière générale, globale, pour les malades, parce que c'est sûr que si on avait prié pour chacun d'eux individuellement, on y serait encore. je voyais ces gens pleins de foi. Et puis, je peux dire que chaque soir, nous avions des dizaines, si pas des centaines, de guérisons. J'ai vu là vraiment les paralytiques se lever et marcher. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. 100 fois plus de guérisons que je n'en vois en Europe. C'est d'ailleurs toujours ce qui est frustrant quand vous voyagez dans un certain nombre de pays. Vous êtes exactement la même personne. Vous n'êtes pas plus sain, vous n'êtes pas meilleur. Fondamentalement, vous n'avez pas forcément plus de foi. Et pour la même prière, vous avez 100 fois plus de résultats. Alors il y a le problème, c'est quand vous revenez en Europe et que vous essayez de faire la même chose. Alors bon, Dieu a ses raisons. J'ai quelques idées, je n'ai pas toute la réponse, bien sûr que non, mais j'ai quelques éléments de réponse. Dans les quelques éléments de réponse, il y a le fait que là, on est en face de personnes, de gens qui ont déjà une foi totale. Moi, le premier, j'ai tendance, si quelqu'un est malade, à dire « Ah oui, quel est le pronostic médical ?» etc. Et bon, je me construis mon petit diagnostic dans la tête, et voilà. Mais jamais. Un mal de tête ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose de mortel dans les 3 jours, ça ne change rien pour eux. Ils prieront exactement de la même façon et avec la même certitude. Donc, je dirais, il y a l'aspect de leur foi, qui est une vraie foi, comme la foi qu'on voit dans les citations que nous avons faites. Et puis, il y a certainement encore, parmi les autres raisons, une des raisons qui est très importante, Dieu est un Dieu de compassion infinie. Et quand dans une population donnée, vous avez un médecin pour 100 000 habitants, ou comme à Genève, un médecin pour 250 habitants, c'est clair que la puissance de Dieu se manifestera davantage en grâce dans une population qui a tellement peu. Voilà, ça c'est un aspect aussi. Maintenant, il y a certainement plein d'autres raisons qui seraient intéressantes à étudier, mais enfin... Voilà, je constate que c'est comme ça. Jésus lui-même, parce qu'il était ému de compassion, a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. La compassion doit se traduire par des actes. Et je me souviens justement d'une expérience là à Kinshasa. On avait eu un soir des quantités de guérison, comme tous les soirs. Et puis, de temps en temps aussi, il y avait des gens qui étaient délivrés, les démons criaient, partaient. C'était parfois un peu impressionnant, moi ça ne m'impressionnait pas, mais celui qui n'avait jamais vu ça, ça pouvait l'impressionner. Et un soir, j'ai prié, parce qu'alors on me l'avait amené un peu à part, pour un enfant qui avait un sérieux problème au niveau des os d'une de ses jambes, en tout cas. Elle ne pouvait pas marcher normalement. Et je me souviens que j'ai prié avec la même foi, je m'y suis pris 3 fois, et il ne s'est rien passé. Dur, dur. Parce que la question que vous vous posez, je ne suis pas meilleur qu'avant, je ne suis pas forcément beaucoup plus mauvais, je prie avec la même foi, pourquoi est-ce que des quantités de gens, jeunes, âgés, etc., ont, eux, été touchés par Dieu et guéris? Et pourquoi pas cet enfant? J'avais mes 2 enfants encore assez petits à cette époque. Et pourquoi pas cet enfant-là? Et ça me touchait en plein cœur. Parce qu'au travers de ce petit, je voyais les miens. Et puis... vraiment, j'étais navré. Et puis j'ai envie de dire, j'en peux rien, puisque c'est pas moi qui guéris. Mais les parents étaient là. Et ils étaient désappointés. Et moi, combien plus? Alors, il s'est passé quelque chose, je vous le dis. parce que je crois profondément que l'amour doit s'incarner aussi. Dieu fait des raccourcis en accordant des miracles, mais parfois, il nous demande de vider nos poches. Et j'avais pris quand même pas mal d'argent suisse, de dollars, etc. Et j'ai dit, bon, ben maintenant, c'est le moment de les utiliser pour ce petit. Et je me suis renseigné ce qu'on pouvait faire au point de vue médical. Il y avait des traitements possibles. Ça coûtait ça. J'ai dit, je couvre le tout. C'est pas que Dieu aurait pas pu le guérir, mais c'est moi qui avais besoin d'une expérience. C'est de me rendre compte que Dieu nous demande d'abord de nous donner nous-mêmes. Et puis, des fois, ça peut coûter très cher. Ben, tant pis. Finalement, vous savez, aucun de nous... on n'a jamais vu quelqu'un qui était dans un corbillard et puis une déménageuse qui suivait derrière. Hein. Alexandre le Grand disait ceci à ses généraux avant de mourir. Il a dit, vous mettrez mes mains en dehors du cercueil. Ses généraux étaient complètement étonnés. Il dit, mais pourquoi ? Eh bien, vous mettrez mes mains en dehors du cercueil parce que je veux que tout le monde sache toujours que même Alexandre le Grand est mort les mains vides. Mes amis, on mourra tous les mains vides. Il n'y aura que ce que l'on aura fait pour Jésus-Christ qui vaudra quelque chose. Le reste, votre argent, votre position, la gloire, tout ce que vous voulez, vos succès, zéro. Zéro. Sur une tombe en Alsace, il y a quelques années, il était marqué ceci. Tout ce que j'ai donné pendant ma vie, maintenant je l'ai. Tout ce que j'avais gardé, je l'ai perdu. C'est intéressant de se poser les bonnes questions par rapport aux vrais enjeux et aux réalités finales. Deuxième qualité de cette foi que Jésus a admirée, c'était l'humilité. Vous savez, notre faiblesse peut être un canal de la manifestation de Dieu. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Quand je suis faible, dit le texte biblique, alors je suis fort. Et que de fois n'avez-vous probablement vous aussi pas expérimenté cela ? Des fois où on se sentait vraiment bien, il ne s'est pas forcément passé tout ce qu'on aurait voulu. Et des fois où on se sentait vraiment mal, alors Dieu a fait toute la différence ô combien. Je me rappelle par exemple d'une série de réunions que j'avais pour des médecins et du personnel médical, c'était en France. Et puis j'étais chez moi en Suisse et j'étais malade. Une espèce de grippe, mais j'étais... Ma femme ne voulait pas me laisser partir, elle était furieuse que je parte. Voilà. Et j'ai dit, non, j'y vais, je me suis engagé, j'y vais par la foi, j'y vais. C'est tout juste, elle ne courait pas après la voiture pour me dire ce qu'elle en pensait quand je partais. Mais enfin, bon, je savais ce qu'elle pensait. Et puis, en fait... J'ai vécu cela, c'est que, vous savez, je me tenais au volant pour tenir dans la voiture, ouais, c'est un petit peu misérable. Mais je déteste ne pas tenir un engagement. Ça, c'est quelque chose, mais qui me hérisse totalement. Si je m'engage pour quelque chose, je le tiens. Alors, les kilomètres se sont succédés. C'était du côté de la Savoie, donc pas trop loin quand même de la Suisse, que se tenaient ces rencontres. Et quand je suis arrivé sur place, j'étais totalement guéri. Ben, vous savez, ce n'était pas par ma force que j'y suis allé. J'allais même avec la désapprobation de ma femme qui avait peur de définitivement perdre son mari. Mais... Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. je suis sûr que vous avez vécu ce genre d'expérience aussi. Les fois où vous étiez le moins en forme, puis que justement Dieu a fait quelque chose de formidable. Alors ne prenons pas prétexte de notre faiblesse pour ne pas agir. C'est un mauvais prétexte. Rendons gloire à Dieu. La bénédiction peut aussi parfois, et ça c'est un paradoxe, être un piège. Il y a des gens qui ont été très bénis dans certains ministères, je pense à deux ou trois exemples que j'ai vus, plus aux États-Unis qu'en Europe. Et malheureusement, plusieurs d'entre eux se sont misérablement cassés la figure et certains ne sont même plus dans un ministère du tout. L'humilité, c'est quelque chose que Dieu apprécie chez le croyant. Je me souviens d'un chrétien, c'était un professeur en école biblique, qui disait « Il y a des coups de chapeau qui peuvent être plus dangereux que des coups de pied. Alors, ça fait du bien d'être encouragé. Je crois que tout être humain a aussi besoin de reconnaissance. Un de mes amis qui était en train de traduire la Bible, de faire une traduction de la Bible, à l'époque c'était Alfred Kuhn, et il était en train de traduire la Bible du Semeur, que je trouve personnellement très bien. Et puis j'arrive chez lui, et j'entre dans son salon, et j'étais époustouflé parce que je ne savais pas où poser les pieds. Il y avait partout, partout, partout dans tout le salon, des petits tas comme ça, de textes. C'était les versets de, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième épître aux Thessaloniciens. Puis j'ai dit, ah bon, tu travailles comme ça ? Mais il me dit, oui, bah, tu vois, c'est comme ça que je m'en sors le mieux. Je mets les différentes possibilités de traduction les unes sur les autres. Puis après, je retravaille le texte lui-même, le verset en question, par rapport, bien sûr, aussi au contexte, les versets qui suivent et qui précèdent. Et puis, c'est ça la traduction que je garde. Et bon, j'ai trouvé cela extrêmement intéressant. Et il m'a dit, tu sais, je viens de faire une découverte. C'est qu'il y a 3 à 4 fois plus d'encouragement, de félicitations et de compliments adressés par l'apôtre Paul aux jeunes chrétiens, pas très expérimentés encore, qui étaient ceux de Thessalonique, qu'il n'y a de reproches ou d'avertissements. Je trouvais que c'était intéressant. On n'a pas forcément toujours cette vision des choses et de l'apôtre Paul. Mais c'était un homme qui savait encourager. Encourager. On a cette exhortation aussi dans la Bible. Encourager, encourager mon peuple. Et nous avons, je crois, aussi à manifester ce caractère de l'encouragement pour ceux qui nous entourent. Parce que, vous savez, l'encouragement, c'est, comment dirais-je, ça stimule les autres. Ça, voilà, c'est quelque chose qui se propage. Le découragement aussi. Si vous arrivez, vous dites, oh, tout va mal, tout ira toujours plus mal, etc., etc. Mais ça va aussi se communiquer. Et ça se communique dans une famille, ça se communique dans une église, ça se communique dans une communauté humaine. Et je crois que c'est tellement important de savoir se saisir des promesses de Dieu et aller de l'avant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que de fois je me suis récité ce verset le matin en me levant. C'est vrai. Et c'est tonique. La parole de Dieu accomplit des miracles. Il y a aussi la nécessité de persévérer dans une attitude juste. La vie chrétienne, disait quelqu'un, n'est pas tellement un 100 mètres. Elle est quand même plutôt un marathon. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus, en Matthieu 25, 15, nous montre que Dieu donne à chacun de nous des talents selon notre capacité. Et il a des tâches qui ne sont pas les mêmes. Un serviteur de Dieu hindou que j'écoutais il y a quelque temps, à Mulhouse, nous disait, vous savez, porter un arbre pour un éléphant, c'est un gros effort. Pour nous, c'est impossible. Mais pour un éléphant, c'est un gros effort. Mais pour une petite fourmi, porter un grain de riz, c'est aussi un gros effort. Tout est à l'échelle. Et ce que Dieu demande à l'un, il ne demande pas à l'autre. Ce qu'il a demandé à Billy Graham, il ne vous le demande pas à vous. Mais ce qu'il vous demande et me demande, c'est de faire ce qu'il a destiné, ce qu'il a décidé que nous avions à faire, là où il nous a placés. Voilà. Mais pas d'être déçu parce qu'on n'est pas Billy Graham ou je ne sais quoi encore. Non. Nous sommes ce que nous sommes. Dieu nous a donné quelque chose. Faisons fructifier au maximum ce que Dieu nous a confié. Je vous parlais de ce serviteur de Dieu qui est homme d'affaires en Australie, mais qui en même temps annonce l'évangile au nord de l'Inde, que j'ai rencontré. Il y a des pasteurs qui sont allés le voir, etc. C'est complètement stupéfiant. Il n'est ni pasteur, ni un ministère officiellement reconnu à ma connaissance ou que ce soit. Mais il a obéi à l'appel du Seigneur qui lui a dit d'aller annoncer l'évangile au nord de l'Inde, d'où il était venu avant de se convertir en Australie. Il a obéi et il était le moyen de créer 19 000 églises. 19 000. Et le Seigneur lui a donné dans son cœur qu'avec son aide, il en créerait 100 000. Ben oui, ben lui, c'est un gigantesque éléphant qui peut porter des arbres gigantesques. Et puis, bon, ben ça le fatigue peut-être pas plus lui que si nous, petites fourmis, on porte un grain de blé ou un grain de riz. Mais Dieu lui a demandé ça à lui, puis il nous a demandé autre chose à nous. Et si chacun d'entre nous accomplit la tâche que Dieu l'a confiée, alors les choses avancent. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que Dieu veut. Il y aura aussi, c'est vrai, par rapport à ce que nous avons reçu, un jugement quantitatif sur chaque vie. Puisqu'à celui qui aura reçu 5 talents et qui en aura produit 5 autres, en les faisant fructifier, il est dit, et il sera dit en ce jour-là, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 15, 21. Et puis, à celui qui aura enterré son talent et n'aura rien produit pour Dieu, il y a une parole extrêmement dure. Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 15, 30. Triste sort. Triste sort. Troisième qualité, verset 8. Moi qui suis soumis à des supérieurs. On pourrait traduire très très bien aussi moi qui suis obéissant à des supérieurs. La foi, la vraie foi, est une foi qui est à l'écoute de Dieu et qui est obéissante. Croire sans obéissance, c'est s'exposer, entre autres, à la parole de Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Obéir implique parfois de renoncer, bien souvent d'ailleurs, à nos propres idées. Obéir à Dieu peut même parfois impliquer de désobéir aux hommes. Et de nous exposer à leurs sanctions. Puis alors, on n'est pas les premiers. Il y en a eu des millions et des millions et des millions avant nous. Et le martyr est une fantastique bénédiction qui est mise en avant par Jésus, par les apôtres, et c'était le plus cher désir des premiers chrétiens de mourir martyr, parce qu'ils savaient qu'alors il y a pour eux un poids éternel de gloire qui est ainsi produit. Il est écrit que Jésus lui-même, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était fondamentalement parfait, bien sûr, mais il y a une progression dans son expérience et manifestation de la perfection et de l'obéissance. Obéir, c'est croire à la fidélité de Dieu. Croire, c'est se reposer sur la fidélité de Dieu. Dis seulement un mot, dit le centurion, l'officier romain. Vous savez, on peut entendre 100 000 sermons sans que rien ne se passe. Mais un mot de Jésus peut tout changer. Un mot de Jésus change tout. Et je crois profondément que le mot de Jésus, pour nous maintenant, c'est aller. Allez. Et il nous envoie dans le monde et il nous y a placés pour être ses témoins. J'aimerais rappeler ici une parole du grand réformateur Martin Luther qui a dit « Dieu nous donne des noix, mais il ne les casse pas à notre place. » Dieu nous donne des noix, mais il ne les casse pas à notre place. C'est à nous de les casser. C'est une parole absolument profonde. Il a préparé un chemin devant nous qui fait appel à la foi. La foi qu'il agrée, qui implique son amour, son humilité, son obéissance dans l'engagement. Et j'aimerais terminer avec quelques signes encore, sauf erreur, que je ne vous ai pas encore... que je n'ai pas encore souligné parmi vous, parce qu'il y en a tellement de ces signes dans ce qu'on a appelé l'Apocalypse de Jésus-Christ, c'est-à-dire Luc 21, Marc 13 et Matthieu 24, que bien sûr on n'a pas pu s'arrêter sur tout. Mais vous savez, et on a mis l'accent là-dessus, donc là, je n'insiste pas parce que je me répéterai, Le grand signe majeur, et vous le savez très bien, c'est la reconstitution de l'État d'Israël. En fait, le premier grand retour massif s'est produit en 1882 et jusqu'en 1902. Ça a été le premier très grand retour massif. C'était essentiellement des Juifs qui venaient à l'époque de Russie, où ils étaient persécutés. Et dans cette perspective, il y a une résurrection globale à tous les niveaux d'Israël. Dans Jérémie 32, versets 43 à 44, il était précisé la chose suivante. On achètera des champs dans ce pays. Et effectivement, très concrètement, de vastes achats de terrains ont eu lieu par les Juifs entre 1882 et 1940, conformément à ce texte prophétique. Dans le prophète Amos, au chapitre 9, versets 14 et 15, il était annoncé « Je rétablirai le sort de mon peuple Israël » et ils bâtiront des villes dévastées et y habiteront. Et très littéralement, ça s'est accompli. Il y a des villes qui se sont construites complètement dans le désert. Il n'y avait absolument rien avant. J'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs endroits au Moyen-Orient et de voir des choses tout à fait stupéfiantes. Et puis, suite à la conquête islamique de la Terre Sainte, en fait 632 après Jésus-Christ, c'était le déferlement des armées de Mahomet, qui a conquis par le fer et par le sang, eh bien, la culture de la vigne pour produire du vin a quasi totalement disparu pour plus de 1200 ans. Amos 9, 14, 15 a annoncé, pourtant, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Actuellement, la viticulture est très répandue en Israël. J'ai bu de fort bons vins en Israël. Je peux vous le dire. Et selon Ésaïe 17, 10, c'est écrit, on plantera des cèpes étrangers. Alors, je peux vous dire un tout petit échantillonnage de quelques vins. Il y a un excellent Cabernet Sauvignon, il y a du Merlot, il y a du Syrah, il y a du Charbonnet, il y a du Pinot Noir, etc., etc. Voilà. La prophétie s'accomplit jusque dans les détails, mes amis. Jusque dans, et le meilleur vin que j'ai bu dans ma vie, ça je vais vous le dire parce que ça ne s'invente pas, ce n'est pas possible, c'est à Cana de Galilée. Là où Jésus a changé l'eau en vin. Je vais dans un magasin palestinien, des gens totalement charmants, d'une gentillesse, d'un accueil. Vous arrivez dans le magasin, on commence par vous servir du café, on vous accueille comme si vous étiez la femme. C'est extraordinaire. Donc, je n'ai pas de mal à dire ces gens-là, les Palestiniens, totalement charmants. Pas du tout le côté entre les dents et avec de mauvaises intentions. Et puis, je repère qu'il y avait du vin. Puis alors, je vois, c'était du vin produit à Cana. Et je me suis dit, bah, tiens, il faut que j'en prenne quand même quelques bouteilles en Suisse. J'en célébrerai la Sainte-Seine une ou deux fois avec ce vin-là. Ben, je peux vous dire une chose, il n'y est pas resté une goutte de vin chaque dimanche où on a service vin là. Je vous le dis, je vous le dis. Extraordinaire. Et des bons vins, j'en ai bu quelques-uns dans ma vie. En fait, j'ai visité plus de 50 pays, alors voilà, on a vu aussi des belles choses. Eh bien, je peux vous dire, c'est le meilleur vin du monde. Si vous allez en Israël, tâchez d'aller à Cana, en Galilée, et vous commandez du vin là-bas. Hein? Il y a du rouge, il y a du blanc, c'est totalement exceptionnel. À Cana de Galilée, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est extraordinaire. Maintenant, Amos parle encore de fruits. Ils mangeront des jardins le fruit, dit-il. Bon, effectivement, c'est ça. La surface de terre agricole a triplé depuis 1948. Le revenu a été multiplié par 16. Oranges, mandarines, grapefruits, avocats, dattes, bananes, etc., etc. Quand vous mangez des oranges Jaffa, par exemple, ou des avocats Jaffa, ou grapefruits, eh ben, Jaffa, d'ailleurs, c'est la jopée de l'Ancien Testament, et puis, vous mangez l'accomplissement des prophéties. Hein? Vous en avez la preuve, par l'acte. Voilà. Et le désert refleurit. Ézéchiel 36, 34 à 35, il était écrit quand même 6 siècles avant Jésus-Christ. Ils diront ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Plus de 230 millions d'arbres ont été plantés sur plus de 80 000 hectares. Chaque année, on plante un peu plus de 2000 hectares de nouvelles forêts en Israël. Bah, tellement que le climat change, ça c'est sûr. L'hygrométrie change. Il y a de plus en plus d'eau qui tombe dans des régions comme celle-là. Eh oui, c'est une conséquence je dirais de deux choses. De la bénédiction de Dieu, mais du travail des hommes. Si vous ne fichez rien du tout et vous dites « Inch'Allah », ben il ne va rien se passer du tout. Vous m'avez compris. Dans tous les détails, chaque prophétie s'accomplit exactement. La production de fleurs est de 1 milliard 400 millions de plantes coupées par an. J'étais à Novkinossar pendant toute une période au bord du lac de Tibériade et pendant la nuit, pas loin d'où j'étais, il y a un grand kibbutz là-bas, et pendant la nuit, il y avait des charters qui arrivaient qui chargeaient des quantités phénoménales de fleurs. Et le lendemain, vous pouviez acheter ces fleurs dans nos magasins en Europe ou dans d'autres régions du monde. Fabuleux. Et vous savez, c'est plus extraordinaire, en fait, que ça n'en a l'air. Quand il dit dans la Bible que dans le monde entier, on pourra avoir des fleurs d'Israël, non seulement ça impliquait que le désert redeviendra un jardin, mais ça impliquait aussi qu'on aurait les moyens de les exporter suffisamment vite pour qu'elles soient fraîches, arrivées à disposition. Si ça avait été au Moyen-Âge, vos fleurs, elles seraient arrivées en poudre ou en poussière. Vous ne l'aurez pas offerte à votre épouse, par exemple. Hein? Voilà. Ça implique beaucoup de choses. Et puis les moyens de conservation, quand même, jusque là-bas, pour qu'elles soient parfaitement fraîches le matin. Extraordinaire. C'est fabuleux. Si vous réfléchissez, vous touchez du doigt. C'était Ben Gourion qui disait « Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas à l'aise en Israël. » Et c'est vrai. Vous vous heurtez constamment à des aspects du miracle de différentes manières. Mais vous pouvez avoir des moments d'intense émotion. Moi, je ne sais pas où ça se pulpe, je ne sais pas. Oh, il y a trop de bazar. Les moines arrivent encore à se bagarrer entre eux, les prétendus chrétiens. Non, ça ne m'a pas trop plu, tout ça. Ça, c'est de la quincaillerie, un peu. Mais, par contre, il y a des endroits qui sont extrêmement beaux. Si vous allez en Jordanie, au gué de Jabok, quand vous pensez, il est resté comme il était il y a 3500 ans. Il y a de l'herbe, il y a beaucoup d'herbe. À la bonne saison, vous avez beaucoup de fleurs. Et puis, vous avez un gué. Vous avez l'eau qui passe, puis vous avez des pierres plus ou moins grosses. Alors, si vous êtes encore un tout petit peu souple, bah, j'y arrive tout juste, mais enfin, vous arrivez à sauter d'une pierre à l'autre. Hein? C'est le gué de Jabok. Et c'est là que s'est passé le combat de l'ange avec Jacob. Cet endroit précis. Vous posez vos pieds et vous savez que c'est là que ça s'est passé. Jacob est devenu Israël. Quand vous êtes sur le mont Nebo, j'étais sur le mont Nebo, d'où Moïse a contemplé un petit peu le pays d'Israël. On aperçoit bien sûr Jérusalem, on aperçoit. Bon, mais en dessous, alors, vous avez la vallée du Jourdain, vous avez la mer Morte sur la gauche, vous avez des villes. Israélienne en face de vous, bref, et c'est petit. Vous avez, je sais pas moi, allons-y, 300-400 mètres carrés là, sur le mont Nebo. Vous vous dites donc, forcément, je pose mes pieds là où Moïse a posé ses pieds, parce que c'est depuis là, puis pas ailleurs, qu'on peut avoir ce coup d'œil. C'est quelque chose de formidable. Si vous avez l'occasion d'aller en Israël et que vous n'y êtes pas encore allé, tâchez d'y aller. Bon, je vous souhaite que ce ne soit pas quand les missiles tombent un peu trop fort, comme ça, parce que voilà, là, c'est peut-être un peu malsain. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y a plein de textes que vous comprenez beaucoup mieux quand vous y êtes allé. Beaucoup mieux. Ensuite, je constate qu'à trois reprises, on a voulu anéantir l'État d'Israël, conformément à la prophétie. Tout d'abord, 1948-1949, guerre d'indépendance, Cette armée équipée ont été engagées contre Israël qui n'avait alors qu'un embryon d'armée et qui n'a pas été effacé de la carte du tout. Deuxième occasion, la guerre des six jours en 1967. Cette fois, c'était 11 armées engagées contre Israël. Et Israël a gagné encore une fois. Et la troisième fois, c'est Yom Kippour en 1973. 16 armées levées alors contre Israël. Et vous pouvez rapprocher ces situations du psaume 83, versets 1 à 4, où il est dit « Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Ben oui, mais ils n'avaient pas tenu compte de Zacharie 2:8, qui dit « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Vous avez touché la prunelle de l'œil de Dieu, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Le 7 juin 1967, le mont du Temple a été reconquis, ce qui a exaucé la prière de siècles où les Juifs ont prié trois fois par jour pour la libération de Jérusalem. Et aujourd'hui, je constate, dans une autre région du monde évidemment, que l'Empire romain lui-même réapparaît de toute évidence. Le prophète Daniel, en 549 avant Jésus-Christ, au chapitre 7, fait un songe. Et il voit quatre empires successifs, le quatrième étant Rome. Et en Apocalypse 13, versets 1 à 10, ce quatrième grand empire, qui était le plus puissant des quatre de toute façon, ressuscite à la fin des temps. Alors qu'il avait disparu pendant des siècles, il ressuscite à la fin des temps. Et dès 1946, Winston Churchill déclarait « Nous devons ériger les États-Unis d'Europe ». Eh bien, aujourd'hui, l'Union européenne, constituée de 28 nations, est une réalité. Et les choses sont bien situées prophétiquement. Dans l'Apocalypse, il est indiqué qu'après être monté de l'abîme, je vois là les terribles destructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait entre 60 et 70 millions de morts, eh bien, cet empire qui ressuscite finira, d'après Apocalypse 17, 14, Apocalypse 19, 18, même si ça ne nous plaît pas, finira par aller à la perdition. Il ira à sa fin. Et Jésus-Christ reviendra alors. Alors, ce sera la fin des souffrances ici-bas, ce sera, il y aura eu l'enlèvement de l'Église avant, il y aura eu un certain nombre d'événements très graves mentionnés dans l'Apocalypse, et puis le retour en gloire de Jésus-Christ, et à ce moment-là, eh bien, tout sera à l'unisson de la volonté du Dieu vivant, du Dieu de Jésus-Christ. Le meilleur est devant. Et je dis, à moins d'être sourd, aveugle et totalement ignorant, il est évident que Jésus revient bientôt. J'ai relevé en tout 175 prophéties qui l'attestent. Je vous entends quelques-unes. Mais 175. Il est évident que Jésus revient très bientôt. Et je crois que le désir de nos cœurs doit être à ce moment-là dans la vraie foi. La foi que Jésus a admirée chez le capitaine, le centenier romain. Cette foi qui va être une foi dans l'amour, qui va être une foi dans l'humilité et une foi dans l'obéissance. Je vous propose qu'on s'incline dans la prière.